Faire tourner le papier, mais c'est pas très important, mais quand même ça m'a...
Tout est important.
On dit dans l'Église, il n'y a pas de prédestination, chose qu'on ne prêche pas.
Ah oui, c'est une question très importante que
j'ai entendue. Et alors, j'ai trouvé comme ça, il y a d'autres passages, je ne suis pas tombée dessus, alors je n'ai pas pu... Mais par exemple, dans le psaume 138, on trouve « Tu as connu exactement mon sentier et l'espace de ma vie, et tu as prévu toutes mes voies. Plus loin, voici Seigneur que tu connais toutes choses, les dernières et les anciennes, et plus loin encore, sur ton livre, ils étaient tous inscrits, les jours que tu ferais, et nul ne manquait. » Si tu veux, moi, ça me donne un peu le goût d'un truc déjà tout défini, tout...
Alors là, c'est fondamental, ça.
C'est fondamental, mais je veux dire que c'est une question que tout... Je ne sais pas comment dire. Oui,
c'est important. Alors là, en fait, c'est une question, on peut clarifier la question au départ, peut-être en expliquant un peu les mots. La doctrine de la prédestination est une doctrine suivant laquelle la liberté humaine n'existe pas, Dans un système Dieu non seulement prévoit tout, mais impose le déroulement de tout. Dans les temps prévus. Voilà, c'est marqué. Mais en plus, disons, l'être humain n'a pas la possibilité d'échapper à quelque chose qui est quand même fait comme un destin. Alors ça, c'est cette conception de la prédestination, c'est une conception qui n'est pas biblique du tout, qui est une conception plutôt... qu'on trouvait chez les Grecs anciens, l'époque de la tragédie grecque, par exemple, dans l'Antiquité grecque, à Athènes, par exemple, dans l'époque ancienne, c'est un monde sans liberté, en fait. C'est un monde sans liberté parce qu'il y a une fatalité, ou un destin, ou une nécessité qui gouverne le monde, et tout est soumis à ça, et dans le système grec, même les dieux. Alors c'est encore plus compliqué, parce qu'il n'y avait pas... Les Grecs avaient une conception polythéiste, comme vous le savez, et donc les dieux eux-mêmes étaient soumis au destin, qui est un destin aveugle et absolument impersonnel, une force aveugle et impersonnelle, et par conséquent l'ensemble l'ensemble du cosmos, puisqu'on fait comme cette expression là, était soumis à au gouvernement de la nécessité, ce qui veut dire que c'est un monde sans liberté et sans c'est ce qu'on appelle un monde tragique. Un monde tragique, c'est un monde sans liberté. C'est pas forcément un monde où on souffre plus qu'ailleurs, mais même le bonheur n'est pas libre. Alors c'est donc il y a eu au sein du christianisme des écrivains, en particulier Augustin d'Hippone, qui étaient contaminés en fait par les idées antiques et qui ont développé cette idée au sein de l'Église chrétienne que au fond il y avait des gens prédestinés au salut en particulier, et puis ceux qui n'étaient pas prédestinés au salut, je caricature un peu, mais vraiment à peine, hein. Et ceux qui n'étaient pas destinés à être sauvés, eh bien, c'était ce que Augustin lui-même a appelé la massa damnata, une citation, c'est-à-dire la grande masse des gens qui sont foutus parce qu'ils ne sont pas prédestinés. Et alors l'être humain là-dedans n'a pas tellement la possibilité d'une vie action libre. Hein. Et même la conversion personnelle n'est pas vraiment un acte de liberté puisqu'elle entre dans cette prédestination. Alors ça, c'est presque caricatural, mais c'est une chose très très grave, et c'est pour ça qu'Augustin d'Hippone n'a jamais été canonisé par l'Église orthodoxe, et c'est une doctrine qui est considérée comme vraiment une hérésie importante et qui a, en Europe occidentale, fait beaucoup de dégâts, dans une bonne partie quand même des courants réformés du XVIe siècle, la doctrine de Luther en partie et de Calvin encore plus, ont hérité de la pensée augustinienne et ont développé donc cette doctrine d'une prédestination dans laquelle la liberté de l'être humain ne peut pas vraiment agir en ce qui concerne le salut. Alors ce qui fait que l'être humain, bon, il a une bonne volonté, il est sincère, tout ce qu'on veut, mais en fait il est soumis à un arbitraire divin, et devant cet arbitraire divin, eh bien, il est totalement impuissant. Donc du coup il renonce à la conversion, généralement il renonce à la pénitence, parce que ça donne des mondes religieux sans conversion et sans pénitence, mais par contre des mondes dans lesquels il y a beaucoup d'action. Alors on va avoir un monde chrétien qui va être tourné vers les œuvres, tourné vers l'action dans le monde, vers la prospérité sociale aussi. Enfin, il y a tout un développement social de la vie chrétienne, puisque au fond l'être humain ne peut rien faire pour son salut, donc il va essayer de vivre bien. Mais voilà. En tout cas, il est soumis à cet arbitraire divin. Alors donc il y a eu ce mouvement-là, c'est extrêmement important, le mouvement luthérien et calviniste a un retentissement énorme dans toute l'Europe occidentale, a marqué toute une civilisation, toutes les civilisations anglo-saxonnes quand même sont issues de cela aussi, c'est donc extrêmement important. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, sur le rapport entre le développement même de la société occidentale et anglo-saxonne en général, et justement la doctrine augustinienne. C'est vraiment, ça a vraiment une très très grande conséquence dans la forme de la société. Et puis en France, il y a une forme prise par cette hérésie-là qu'on appelle le jansénisme. Et les jansénistes étaient une communauté de chrétiens qui habitaient à Port-Royal, ça a été rasé après ça, mais enfin, ils avaient une communauté là, c'est des gens extraordinaires, très fervents, très actifs, qui étudiaient le grec, qui lisaient les pères de l'Église, ils faisaient beaucoup de très très bonnes choses, mais ils adhéraient à cette doctrine de l'augustinisme strict, et donc en fait d'une conception dans laquelle la liberté n'existe pas, l'être humain est soumis à l'arbitraire divin. Donc c'est quand même, ça a donné le jansénisme, a été une forme de christianisme très pessimiste, très, très triste, qui a beaucoup influencé la France. Le christianisme français était très très influencé par le jansénisme jusqu'à une époque tout à fait récente. Dans nos familles, quand nous entendons nos oncles, nos tantes, nos grands-parents parler du christianisme, c'est un christianisme vraiment très pessimiste, très dur, très sombre. Voilà, il y a quelque chose qui est pessimiste. Et donc c'est autre chose, si vous voulez, même que ce qui est issu du Moyen-Âge, le côté l'exaltation de la souffrance, c'est un autre problème, ça. Hein. Mais donc une conception pessimiste de la condition humaine dans laquelle l'être humain ne peut rien pour son propre salut. Donc ce sont vraiment des déviations, considérées comme telles. Hein. Disons, l'Église a toujours été assez claire à ce sujet-là. Alors par contre, ce qui existe, observez, je l'expliquerai peut-être plus simplement. Donc une doctrine suivant laquelle l'être humain ne peut pas coopérer librement à son salut et au salut du monde entier n'est pas une doctrine chrétienne, n'est pas une doctrine biblique, est une doctrine qui est, bon, peut-être vaguement baptisée comme ça, christianisme, mais en fait qui est issue plutôt de l'héritage de la Grèce antique et donc de la conception de la fatalité. Hein, c'est une doctrine qu'on trouve dans l'islam aussi, on voit très bien que l'islam, qui est une hérésie chrétienne au départ, comme vous le savez, a hérité aussi une conception tout à fait fausse de la liberté. En fait, il n'y a pas de liberté, hein, c'est un monde de soumission. L'islam veut dire soumission, et obéissance, c'est dire soumission, et soumission à l'arbitraire divin. Ça donne des sociétés extrêmement fortes, d'ailleurs, parce que quand tout le monde est soumis à un chef, eh ben, ça marche. Bon. Enfin, ça ne veut pas dire que ce soit le salut pour autant, et voilà, ça dépend de ce qu'on cherche, exactement. Bon, et par contre, ce qui est juste, enfin, c'est assez complexe, c'est que ce que confesse la Bible et l'Église, c'est l'omniscience de Dieu. Mais ça, c'est une chose qui nous échappe totalement. C'est-à-dire que Dieu est totalement omniscient, mais en tant qu'il est le créateur du temps, de l'espace, de nous-mêmes, donc il est totalement omniscient. Mais le fait qu'il soit omniscient ne veut pas dire qu'il détermine toutes nos actions. Vous voyez, je ne sais pas si c'est un peu abstrait, excusez-moi. Hein, mais, d'abord, son omniscience... ça peut se comparer un peu à ce que les parents peuvent avoir comme omniscience, assez relative quand même, enfin mettons, à l'égard de leurs enfants. C'est-à-dire, imaginez que vous laissez la petite dans le jardin là, que vous êtes dans la cuisine et que vous la surveillez de loin, et que vous savez à peu près ce qu'elle va faire, elle va aller là, elle va aller dans les fleurs, il y a une marche là, elle va y aller, elle va très probablement tomber, se faire mal, dans une minute elle va crier. Donc, c'est une omniscience tout à fait relative, c'est pas une omniscience absolue. L'omniscience de Dieu, elle est absolue, et donc absolument aussi incompréhensible pour nous. Ça faut quand même être clair, et c'est pour ça que la doctrine de la prédestination est une hérésie, c'est parce que c'est une systématisation en catégorie humaine d'un mystère qui nous échappe vraiment beaucoup. Ce n'est pas possible, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme autre exemple. Quelquefois, il y a des fourmis, surtout en cette saison, qui fait chaud. Alors, les fourmis, elles se déplacent d'un point à un autre, mais c'est très très petit, une fourmi. Toi, là où tu es, tu vois les fourmis, tu les vois aller de là à là, tu n'as même pas besoin de tourner la tête comme à Roland-Garros, sans bouger, tu vois les fourmis qui vont de là à là. Et elles font un chemin qui est considérable, pour elles, c'est des kilomètres qu'elles font. Et toi, tu vois et leur point de départ, et leur point d'arrivée, mais elles, occupées à ce qu'elles sont, et petites comme elles sont, même si elle se retournait, si elle se levait la tête, imagine qu'une fourmi lève la tête, je ne sais pas ce qu'elle va donner, je ne sais pas si elle peut même te voir. C'est, donc, qu'est-ce qu'il faut... C'est extraordinaire. On a étudié, vous savez, les savants ont étudié l'optique des animaux, c'est assez intéressant. On a étudié les yeux des mouches, et des choses comme ça, et quelquefois ils voient des... Ils ont une vision globale, mais ils ne discernent pas pour autant une forme. Ils discernent une ombre, une couleur, un mouvement, mais ils ne discernent pas forcément une forme. Donc, ce que la fourmi voit de la personne qui l'observe, c'est extrêmement déformé. Et ça, même l'exemple que je prends est un exemple idiot par rapport à la réalité. Vous voyez, c'est tout exemple qu'on peut prendre dans ce domaine-là, ce sont des exemples ridicules uniquement pour approcher un petit peu du sujet. Et nous, ce n'est pas une même perception sensible. C'est certainement notre intelligence, comme a dit justement, on parlait des jansénistes, mais Pascal, qui est un très grand philosophe, un peu lié au mouvement janséniste, sans être lui-même janséniste, et il a dit ça, il a dit c'est l'être humain ne peut pas se voir comme, enfin, en tout cas intellectuellement, alors intellectuellement, métaphysiquement, scientifiquement, l'être humain ne peut pas se voir comme Dieu le voit. Hein, l'intelligence divine, ça, nous n'avons pas idée de ce que c'est. Quand nous l'appelons une intelligence, c'est par comparaison avec ce que nous appelons intelligence en pensant à nous ou aux gens qui sont intelligents autour de nous. Mais c'est pas l'intelligence divine, c'est encore autre chose. Et toute comparaison dans ce domaine-là est vraiment très, très, très inadéquate. Donc il faut faire extrêmement attention. Mais par contre, si vous voulez, nous vivons plus au niveau de la confession de foi qu'au niveau de la compréhension. La confession, c'est que nous croyons que Dieu est omniscient, parce que nous le confessons comme créateur, c'est déduit du dogme de Dieu créateur, si vous voulez, et donc il a une omniscience, mais qui est une omniscience aimante, une omniscience miséricordieuse, une omniscience prévoyante aussi, qui fait que par exemple il envoie les prophètes, que dans notre vie, ben, c'est extrêmement important, dans notre vie il nous fait rencontrer telle personne, il nous fait tomber sur telle émission de radio, il nous fait tomber sur tel livre, et il permet que nous ayons certaines épreuves, il permet que nous trouvions du soulagement. Parce que nos prêtres nous a parlé ce jour-là, au lieu de passer sans nous voir, enfin, des trucs comme ça. Bon, donc Dieu, si vous voulez, c'est une omniscience paternelle, une omniscience prévoyante, une omniscience pédagogique aussi, une omniscience active d'un père. Bon, même ce nom de père, il permet de nommer Dieu, mais enfin, ça n'enferme évidemment pas l'être divin. Dieu est absolument aussi inconnaissable, si vous voulez. Donc tout ce qu'on dit de Dieu, ça reste extrêmement approximatif et faux quelque part, si vous voulez, hein, sans être directement faux, c'est quand même faux au sens où c'est trop peu dit. Hein. Mais donc on peut quand même, si vous voulez, métaphoriquement, symboliquement, comparer Dieu à un père qui serait extrêmement aimant et qui, donc, dans son omniscience, veillerait vraiment à tout. Ça, c'est vrai, ça. Et il veille même tellement à tout qu'à un moment de l'histoire, il envoie, c'est souvent incompréhensible pour nous aussi, il envoie son verbe, c'est-à-dire sa pensée et sa parole, et qu'il veut que cette pensée et sa parole qui est la sienne ne soient pas seulement consignées dans un texte écrit comme la Bible, mais que cette parole et sa sagesse qui est la sienne soient humanisées, deviennent homme. Voilà, ça fait aussi partie de l'omniscience. Alors, l'omniscience de Dieu, c'est ça, c'est savoir que à un moment de l'histoire, il entre dans l'histoire, il envoie son verbe pour parler aux hommes, pour monter sur la croix, etc. Mais cette omniscience n'est pas, donc vous êtes clair là-dessus, n'est pas une prédétermination de tout, n'influe pas définitivement sur la liberté humaine, je vais revenir là-dessus, et ne conditionne pas, si vous voulez. Si ça peut être un conditionnement, mais sans être une détermination, c'est pas exactement la même chose. Et alors, ce qui est encore plus fort, beaucoup plus intéressant, c'est que cette omniscience, elle s'accompagne du don du Saint-Esprit à l'humanité, et particulièrement à ceux qui appartiennent à son Église. Et l'action du Saint-Esprit, c'est justement d'activer la liberté. Bon, par exemple, c'est des choses vraiment trop fortes pour nous, on a peut-être tort de parler de ces choses-là, c'est vraiment trop difficile pour nous, mais on peut en parler quand même. Le rôle de l'Esprit-Saint, c'est d'activer la liberté. Donc, l'omniscience de Dieu, l'omniscience paternelle de Dieu, au fond, loin d'être une détermination des actes, elle n'est pas ça du tout. Elle se conduit, elle se comporte comme manifestation de la vérité, par les prophètes et finalement par le Christ, et, cette omniscience se manifeste, enfin, se concrétise, parce que Dieu est un être réel, hein. Cette omniscience se réalise aussi par l'action du Saint-Esprit qui augmente la liberté en l'homme, qui active la liberté en l'homme, qui suscite la liberté là où elle n'est pas, qui la développe là où elle est, un peu comme, je ne sais pas, vous savez, les plantes, elles ne demandent qu'à pousser, par exemple, mais si votre plante est bien exposée, la graine que vous avez mise en terre, si elle est bien exposée au rayon du soleil, et bien arrosée, et si elle est, je pense, sans parler même de la terre dans laquelle elle tombe, eh bien, elle va lever cette graine. Et de même pour la liberté humaine est un donné objectif de la créature. Mais l'action du Saint-Esprit est comme l'action solaire, qui, si vous voulez, qui active les semences, qui active les énergies de croissance dans la graine. Donc, si vous voulez, l'action du Saint-Esprit consiste non pas à nous déterminer comme une cause qui nous oblige à faire quelque chose. Bon, si vous prenez cet exemple-là, l'Esprit Saint ne nous oblige à rien du tout, non. Il fait grandir notre liberté, qui est une liberté de choix, une liberté d'adhésion ou une liberté de refus. Alors, ceci veut dire une chose extrêmement importante, c'est que l'omniscience de Dieu, l'omniprévoyance de Dieu, l'omniprovidence de Dieu, peut être éventuellement mise en échec par la liberté humaine. Et c'est ce que nous constatons dans l'histoire, quand même. Puisque les pères ont dit, Saint-Maxime a dit, c'est intéressant, il y a vraiment des différences de doctrine importantes. C'est souvent dit, mais il y a des différences de doctrine orthodoxe, et c'est extrêmement simple, dans la liturgie latine, et malheureusement, c'est resté dans une de nos antiennes, il faudrait qu'on corrige ça un jour, il y a une antienne qui est chantée, qui est tout à fait augustinienne, donc fausse du point de vue orthodoxe, qui dit, le péché de l'homme attire Dieu sur la terre. Alors ça, c'est absolument pas orthodoxe de dire ça, parce que la doctrine orthodoxe, c'est que Dieu, comme a dit Saint-Irénée, par exemple, Saint-Maxime dit ça aussi, Dieu a toujours, dans son plan, dans sa prévoyance, dans son omniscience, eu le projet d'envoyer son verbe dans la création et aux hommes pour leur faire connaître la ressemblance de l'image à laquelle ils avaient été créés. Ça, c'est le projet. Mais, comme l'homme a usé sa liberté dans la révolte et la désobéissance, alors Dieu, du coup, a changé son programme, a envoyé son verbe quand même, mais, du coup, a prévu la mort sur la croix, la résurrection, etc. Alors, c'est extrêmement intéressant. C'est qu'il y a dans l'orthodoxie la doctrine d'un Dieu qui est omniscient, mais son omniscience comporte aussi des possibles. Par exemple, la liberté adamique, c'est une liberté totale, mais qui peut être une liberté, ça peut être un oui, ça peut être une désobéissance, ça peut être, c'est-à-dire qu'il a prévu, l'omniscience comporte aussi tous les possibles de cette liberté, exactement comme votre enfant, elle va aller par là ou elle va aller par là, ce sont des possibilités. Et en fonction des possibilités choisies par la créature, Dieu adapte son plan et le modifie. On voit aussi, par exemple, que dans l'Évangile, le Christ Dieu, à un moment, s'émerveille devant quelqu'un. Il s'émerveille devant la foi de centurion. Bon. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que Dieu, tout en étant omniscient, a, en tout cas, dans le cas de l'incarnation, si vous voulez, il a aussi la capacité de se mettre tellement à notre niveau que pour lui, notre liberté est un émerveillement. Pour lui, notre... Vous voyez, c'est ça. Je sais pas, c'est-à-dire qu'il a créé une vraie liberté. Il a créé une vraie liberté qui est vraiment à son image et qui est pour lui aussi liberté. Notre liberté est liberté pour Dieu, mais elle n'est pas seulement liberté pour nous. Je ne sais pas comment vous dire. Dieu a créé des êtres libres, pas seulement pour qu'ils se sentent libres, mais il a créé des êtres qui sont libres devant sa face. Ce qui est le sens, par exemple, du nom d'Israël donné à Jacob. Hein, Jacob affronte Dieu, justement, dans ce combat nocturne, et il devient, justement, quelqu'un qui marche devant la face de Dieu, qui est libre devant la face de Dieu. Or ça, c'est la vraie liberté de Dieu. Dieu veut, Dieu a créé, et Dieu entretient, et Dieu, dans son omniscience, respecte une liberté qui, devant sa face, est une liberté absolue, ou alors elle n'est pas l'image de sa propre liberté. Alors bon, c'est ça qui est un peu compliqué. Ça veut dire que donc, l'omniscience de Dieu n'est pas une prédétermination, et que même ce que tu disais là, c'est-à-dire que l'Écriture, par exemple, nous donne des textes de ce genre-là, par exemple, ou dès le sein de ma mère, tu m'as choisi, pour saint Paul, on dit ça aussi. Alors c'est une chose un peu différente, il ne s'agit pas d'une prédétermination, il s'agit de ce qu'on appelle une élection. Une élection, alors on élit quelqu'un, on choisit quelqu'un pour un ministère, pour un service particulier, mais cette élection n'est pas une prédétermination. Je pense qu'on a ordonné un évêque dimanche, par exemple, mais cet évêque est élu. Et finalement, il a accepté, alors qu'il avait vraiment beaucoup d'autres choses à faire, il n'était pas candidat a priori, sa famille, ses enfants s'occupaient un peu, son travail, sa paroisse à s'occuper, donc vous voulez, bon, il a été élu. Et puis une fois élu, bon, ben, il pouvait dire, mais non, finalement, je ne peux vraiment pas accepter, ou finalement, si j'accepte, bon. Et tout, d'ailleurs, c'est intéressant de voir tout le rituel de l'ordination auquel on a assisté, je pense, quelques-uns parmi vous, dimanche. Tout ce rituel de l'ordination montre justement que Dieu élit, il élit par le ministère de l'Église, et que l'être humain accepte librement cette élection. Alors, ce qui fait que toutes les personnes dont on dit qu'ils ont été élus, que ce soit Saint Paul, que ce soit Jean-Baptiste, soit la Mère de Dieu elle-même, aucune de ces personnes-là n'a été prédéterminée. Ces personnes ont été élues, appelées à un moment, et ont la capacité de prendre, premièrement, de prendre le temps qu'elles veulent pour répondre. Et ça, c'est dommage, évidemment, parce que être élu de Saint Paul, c'est dommage de traîner comme ça pendant des années, alors que c'est tellement extraordinaire comme activité, mais c'est à lui de répondre oui. La Mère de Dieu aussi, rien ne l'obligeait à répondre oui. Saint Jean-Baptiste, bon, et en fait chacun d'entre nous, si vous voulez, d'une certaine façon, ça c'est à découvrir dans la vie spirituelle, justement c'est ça le mystère dans la vie spirituelle, c'était notamment extraordinaire, qu'on découvre beaucoup dans le mystère du repentir, c'est pour ça que le repentir est absolument central dans l'Église, c'est dans le mystère du repentir justement qu'on découvre toute cette espèce d'articulation subtile entre l'élection de Dieu, qui je sens bien que Dieu m'appelle à ça, à vivre telle chose de l'Évangile, enfin je sais pas, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes jamais sans, qu'on ne se sent pas attiré par quelque chose, c'est pas vrai. Alors, c'est ça, ce fait de parfum de l'élection, et en même temps, par rapport à cette élection, il y a des résistances, il y a oui, mais, ou plus tard, dans quelques années je serai prêt, probablement je préfère faire autre chose. Et toute cette autonomie que nous avons, qui nous permet de refuser ce qui est au fond bête, parce qu'on refuse un bonheur, mais que Dieu respecte. Donc vous voyez, élection ne veut pas dire détermination, ne veut pas dire obligation, et l'élection elle-même, d'ailleurs, c'est une vocation en fait. Hein. Tu m'as appelé, de la même manière, appelé, ça veut dire vocare en latin, donc c'est une vocation. C'est tout à fait profond, que la vocation soit inscrite dès la gestation, pourquoi pas. Mais une vocation n'a jamais été une détermination, n'a jamais été une obligation, n'a jamais été un enrôlement. C'est comme les gens qui font l'armée, mais les gens qui font l'armée librement. Il y a des époques où on enrôle les gens de force parce qu'on en manquait. Bon, Dieu ne nous enrôle pas de force, si vous voulez. Vous voyez, il y a une manière de nous appeler. L'Église est faite de gens qui sont appelés et l'histoire est faite de gens qui sont appelés. Alors, par contre, il y a des textes qui sont plus précis et qui sont souvent mal traduits. Il faut faire extrêmement attention. C'est pour ça que c'est bien d'apprendre un petit peu le grec, 2-3 mots, pour pouvoir quand même vérifier de temps en temps. Et les textes ont été. On a traduit quelquefois prédestiné. Or, le texte grec ne dit pas ça du tout. Il y a un mot grec qui, je me souviens à peine, je viens de regarder, qui dit pré-élu. Et non pas prédestiné. C'est quand même pas pareil. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir été élu, donc, comme on dit, dès le sein maternel, au moment de sa conception. L'embryon, moi je ne connais rien, je ne suis pas généticien, mais est-ce qu'un embryon, un fœtus peut sentir une vocation comme ça dès le moment où il est conçu? Je ne sais pas, quelque chose qui est vraiment tout à fait premier dans cette élection, mais on ne peut pas en aucun cas traduire par prédestiné. Alors quand il arrive qu'on voit des textes mal traduits, où il s'agit de prédestination, si vous regardez bien, parce que généralement c'est un texte grec qui est derrière, le mot qui est employé en grec, c'est un mot qui veut dire pré-élu. C'est-à-dire élu depuis très longtemps, élu avant tous les siècles. Pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas un projet insondable bien même avant de créer le monde, il y a l'histoire d'avant et d'après, c'est un peu péril. Mais pour parler dans nos catégories à nous, avant de créer le monde, il y avait bien un projet de créer le monde. Il y a forcément un projet, il y a une pensée divine avant l'action divine, par exemple. Oui. Donc, le projet n'est pas du tout... pas du tout une fatalité ou un destin. Je pense qu'il faut absolument bannir du langage chrétien tous les mots qui emploient le mot destin. Il n'y a pas de destin. Il faut laisser ça à des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui pensent qu'il y a un destin inscrit dans les astres, machin, etc. C'est pas vrai. Ce n'est vraiment pas vrai, je suis. Hein. Il y a un conditionnement, bien sûr, nous sommes conditionnés par la chaleur, par la sexualité, par l'hérédité, par la télé, par les choses qui nous conditionnent, d'accord. Mais un conditionnement n'a jamais été une détermination, ni un destin, ni une fatalité. Et au contraire, justement, toute la vie dans l'Église consiste à découvrir ça, à découvrir que la liberté existe, à découvrir que je suis tout à fait ce que je croyais un destin, pardon. Mon destin est d'être coléreux, par exemple, je prends toujours cet exemple-là, mais non, ce n'est pas un destin. Qu'est-ce que c'est l'histoire? D'où vient ce mot? D'abord, le mot destin n'existe pas dans la Bible. Non, c'est une habitude, c'est une seconde nature héritée de l'enfance, ou peut-être une imitation des parents, un état de conditionnement psychologique qui joue là-dedans. Mais je peux très bien, en disant non à certaines pensées, en faisant des méthanies, en jeûnant, en faisant des pèlerinages à pied, en demandant la prière des saints, je ne sais pas quoi, il y a une sorte de méthode, et surtout en découvrant Dieu d'un cœur sincère, c'est encore plus important que tout, je peux tout à fait découvrir que je suis libre de ces choses-là. Elles me conditionnent, mais elles ne me déterminent pas. Je pense que la langue française est une langue qui est bien faite. Ça me donne beaucoup de chance d'être français. Et la langue française est une langue extrêmement précise. Et justement, là, je pense que, au fond, l'orthodoxie, en grande partie, c'est une exigence sur les mots. Une précision sur les mots. Donc, nous sommes conditionnés, mais nous ne sommes pas déterminés. Et donc, notre avis par rapport à l'astrologie, c'est pareil. Qui a un conditionnement astral, bien entendu. Bon, pourquoi pas. Alors, on sait très bien que la lune qui monte ou qui descend, les plantes ne font pas la même tête, donc c'est n'importe quel paysan, c'est ça, c'est pas un problème. Mais la plante n'a pas une liberté créée comme l'être humain, il y a quelque chose de souverain dans la liberté humaine, mais qui est à découvrir. Qui est à découvrir. Je crois que la découverte de l'Église, c'est la découverte de la liberté. Et que c'est vrai que c'est très difficile de savoir qu'on est libre. Et donc il y a beaucoup de, dans l'histoire de l'humanité, beaucoup de gens qui acceptent leurs conditions sans jamais bouger. Il a fallu, justement, là, l'arrivée du christianisme pour que les révolutions se produisent. Vous savez, l'évangile porte une grande responsabilité dans le monde en ce qui concerne les bouleversements sociaux. Je citerai un exemple. L'exemple de la Chine. La Chine est un pays extraordinairement intéressant, et alors où tout fonctionnait de manière, un déterminisme cosmique admirable, d'ailleurs. C'est absolument exceptionnel, la civilisation chinoise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sont arrivés les chrétiens. En l'occurrence, c'était les jésuites. Je n'ai rien contre les jésuites. Et alors, qu'est-ce qu'ont apporté les jésuites? Ils ont apporté dans un monde qui avait une vision cyclique du temps, où tout se répétait régulièrement, comme dans l'archétype, etc. Ils ont introduit une conception du temps absolument pas cyclique, une conception linéaire, et la liberté. Et alors, ça a donné tous les bouleversements, un bouleversement historique absolument immense, qui était impensable. Et il n'y a pas de révolution, même politique, dans un système où il n'y a pas de liberté, dans un système ni un destin. C'est pour ça que, d'une certaine façon, le christianisme, la Bible et l'Évangile sont des textes subversifs. Ça. C'est bien ce qu'avait compris l'Empire romain. C'est pour ça que les chrétiens, on essaie de les détruire. Si on avait pu, on les aurait tous détruits. On a très bien compris que c'était, pour un pouvoir politique, c'était la fin des haricots. Hein. Ils sont laisse des...
Et alors, comment tu interprètes, dans le sens inverse, Judas, quand il est dit à un moment donné que Jésus lui donne un bout de pain, et à ce moment-là, le diable rentre en lui. On a vraiment l'impression que c'est... Alors, ça doit être mal traduit, je ne sais pas quoi, mais qu'il y a une sorte d'automatique, qu'avant, il était comme les autres, que le Christ lui donne un bout de pain, et pof, le diable entre en lui.
Oui, mais ça, sachant qu'il faut faire bien attention à ces textes-là. C'est pour ça que c'est très très important l'interprétation des textes. Un texte comme ça, on peut effectivement l'interpréter, mais ça veut dire qu'on oublie les textes précédents, qu'on oublie que Judas a déjà commencé à contester au moment de la... Vous savez, quand la femme perce du parfum, il était déjà là à dire « Ouais, mais cet argent, on aurait pu... » Bon, et le Christ déjà lui répond. On voit très bien qu'il y a chez Judas un esprit de contestation, qui doute au fond de la souveraineté du Christ, et donc ça se prépare de longtemps. Il y a d'autres textes que je n'ai pas en mémoire, je pense surtout à celui-là. Donc en fait, que l'attitude de Judas au sein du collège des apôtres est déjà une attitude de désobéissance, et de doute, en fait, c'est ça, de doute à l'égard de la Seigneurie de Jésus, bien des textes avant. Et saint Jean Chrysostome dit qu'au cours du repas, Jésus, en fait, avertit, puisqu'il dit, l'un de vous va me livrer. Oui, il y a pas comme ça, genre là. Après ça, qui est-ce celui qui... Bon, donc en fait, saint Jean Chrysostome dit que le Christ a averti plusieurs fois Judas, de se garder de cette tentation diabolique de le livrer. Et puis finalement, après ça, il lui dit, bon, bah, écoute, fais ce que tu as à faire. Hein, bon. Et donc, si vous voulez, le Christ a une... Justement, il a, en tant que Dieu, il a une omniscience totale. Mais c'est la même chose qu'avec l'apôtre Pierre. Quand tu dis, je t'aime, ça. Il dit, ouais, vraiment, si, je t'aime. Alors, vous connaissez le texte. Et le Christ lui dit, oui, d'accord, mais tu vas voir, il l'avertit. Ça ne veut pas dire, tu es obligé de. Il dit, je t'avertis, parce que tu me dis que tu m'aimes, mais moi, Dieu, je te vois déjà me livrer trois fois. Je te vois me trahir trois fois. Et l'apôtre Pierre n'a pas entendu cette parole-là. Et par contre, quand il a eu livré, ah, mais c'est pas vrai. vous l'avez dit.
C'est là qu'on voit les phrases, là.
Oui.
On est vraiment, c'est très dur, toi, de lutter. Tu vois, Judas, c'était vachement difficile pour lui. Il était complètement entraîné par... Et puis, je crois qu'on n'est pas assez intelligent, qu'en face de toi, assez clair, quoi.
Ça, il y a peut-être un manque de connaissances aussi. Mais c'est pour ça que Dieu est très miséricordieux. Même pour Judas, il y a un pardon préparé à la fin des temps. Et bon, il y a peut-être la question du suicide, qui est une question terrible, parce que alors, difficile, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un pardon à la fin des temps pour Judas, qu'il n'y a pas un repentir possible au dernier jour. Mais pour l'apôtre Pierre, qui heureusement ne s'est pas suicidé, donc ben, le pardon a été là quand même. Donc s'il est Dieu. Oui, c'est très difficile d'être à la place de Dieu, si je peux dire, parce qu'il voit comment les choses peuvent se passer. Il nous voit sur telle pente, il nous le dit, et il ne peut pas en plus dire ne fais pas telle chose. Vous voyez, c'est un peu difficile. Quand même. À partir du moment où tu dis ne fais pas quelque chose, tu as commencé à blesser la liberté quelque part. Alors en fait, Dieu se contente d'avertir. C'est comme quand on dit ouais, regardez le monde comme il est, regardez la télé, regardez les journaux, quand même. S'il y avait un Dieu, ça ne se passerait pas. Mais je suis bien désolé. Premièrement, il y a un Dieu. Et deuxièmement, Dieu a dit tout ce qu'il a à dire sur ce sujet-là. Il a envoyé profiter l'évangile. Tout le monde peut aller à la FNAC, n'importe quoi, acheter des bouquins sur le christianisme, savoir ce que Dieu pense de la situation, mais c'est à nous de vivre ça. Dieu ne peut pas en plus nous obliger à accomplir sa parole. Alors donc il y a cette point de la croix, qui est qu'en fait, Dieu est crucifié à la liberté humaine. Ça, le sens de la croix.
Oui, mais cette liberté, c'est pas une vraie liberté, puisqu'on se rend compte en même temps qu'on veut vraiment être libre, qu'on veut aller vers Dieu, etc., qu'on n'y arrive pas, donc... C'est pas vraiment une liberté libre, c'est plus des... Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça qu'on dit Dieu respecte notre liberté, mais c'est notre faiblesse.
Pour aller dans le sens de ce que dit Guillaume, si on revient tout à fait au début, au moment où... Moi, ça c'est quand même une question, qui est là, Dieu dans son omniscience, quand il y a ces deux créatures, Adam et Ève, il devait deviner qu'ils allaient se casser la figure avec cet arbre à côté. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a vraiment leur liberté là ?
C'est complexe. Il y a deux choses qui se mélangent. D'une part, ce que Dieu pense, c'est que sa parole me suffit, comme il dit plusieurs fois. Donc, Adam et Ève, ils avaient une parole de Dieu. Donc, cette parole, en principe, pouvait leur suffire. Mais ça, c'est vrai pour beaucoup d'entre nous. La parole de Dieu peut nous suffire. À partir du moment où la parole de Dieu ne nous suffit pas, et nous commençons à chercher ailleurs, écouter d'autres gens qui vont présenter des choses plus intéressantes. Alors, si la parole de Dieu ne nous suffit plus, évidemment, mais en fait, la parole de Dieu leur suffisait. Il peut vraiment tout à fait fonctionner comme ça. Alors, deuxième, il faut vraiment absolument répondre à la question de Guillaume, qui est très important. Les pères, moi je ne parle pas en mon nom, hein. Les pères disent une chose très importante, c'est que la liberté est quand même déchue. En fait, c'est pas d'Adam et Ève ici, mais c'est les genoux, par exemple, ou Judas, ou Pierre, c'est le père en Dieu. Bon. Et la liberté est déchue, c'est-à-dire que après le péché originel, ce don de la liberté totale, comme l'image elle-même, a été non pas détruit, ça c'est important, non pas détruit, mais abîmé, handicapé, asservi, si vous voulez, la liberté est asservie. Alors là, justement, il y a une différence d'enseignement très importante. L'augustinisme dit que l'image de Dieu a été détruite par le péché, donc la liberté est détruite par le péché. C'est pour ça qu'Augustin, et donc tout le courant augustinien, les jansénistes de ce monde-là, ont développé cette doctrine sur laquelle il n'y a pas de liberté, parce que l'homme est déchu, il n'y a donc plus de liberté du tout, il est soumis à l'arbitraire de Dieu, et il ne peut rien faire pour se sauver. Les pères orthodoxes, les pères grecs, les pères syriens, n'ont pas dit ça du tout, les rois de Nice, n'ont pas dit ça du tout, ils ont dit non, la liberté de l'homme n'est pas détruite, l'image de Dieu n'est pas détruite, mais l'être humain est, comme on dit, une liberté comme atrophiée, une liberté esclave. Mais il n'est pas détruite. La preuve, c'est que Abraham, par exemple, a fait preuve quand même de liberté, les prophètes, généralement, il cite plein d'exemples dans l'Ancien Testament pour montrer que les gens ont quand même une possibilité d'évolution spirituelle considérable. Il cite des gens justement qui n'ont pas connu le Christ, même Bouddha, etc., dans toutes les traditions du monde, les gens, même avec cette liberté déchue, quand même, ils font quelque chose, donc il y a quand même un reste de liberté. Mais ce n'est pas la liberté totale. Alors, cette liberté, c'est sa Maxime qui dit ça, il dit au fond, il y a deux libertés. Il y a la liberté d'origine, et que nous connaissons à peine, qui a justement besoin d'être découverte, qui est une liberté absolue, qui est pure oui. C'est un oui absolu, l'obéissance absolue, la confiance absolue, mais moi je n'ai même pas idée de ça, je connais ça par les livres, mais je n'ai pas l'expérience d'une telle liberté. Et puis il y a la liberté déchue, dont nous avons quand même l'expérience, qui est la liberté de choix entre ceci ou entre cela, ce qu'on appelle le libre arbitre, si vous voulez, le fait d'hésiter entre deux choses, mais ce n'est pas une vraie liberté. Alors effectivement, l'expérience que nous avons de la liberté est une expérience de la liberté déchue, et n'est pas encore l'expérience de la liberté plénière. Alors donc, quelle est l'action de Dieu dans ce domaine-là? C'est toujours d'activer notre liberté par l'Esprit Saint, de nous instruire par le Christ et par son Église, et justement de tout nous donner par la tradition de l'Église, surtout la tradition ascétique de l'Église en particulier, nous donner tous les moyens de libérer la liberté, de découvrir cette liberté-là, surtout à partir du moment où nous sommes baptisés et chrismés. Parce que le baptême et la sainte chrismation sont justement l'action de Dieu qui, si vous voulez, restaure la liberté originelle, si vous voulez. Restaure. Alors après ça, donc toute notre vie dans l'Église à partir du baptême et la sainte chrismation consiste à découvrir ça, à en vivre véritablement, et à libérer cette liberté captive, à passer de la liberté déchue à la liberté absolue. Alors on voit ça, il y a un exemple qui est donné par les frères, qui est extraordinaire, qui est dans l'Évangile, qui est l'exemple de l'Annonciation, hein, quand la Dieu, enfin, c'est la Vierge Marie à ce moment-là, elle est là, elle est très, très sage chez elle, elle tricote, elle couche, je sais pas ce qu'elle fait, elle boutille, elle tisse le voile du temple, c'est quand même pas n'importe quoi, et arrive l'ange. Or quand arrive l'ange, elle ne dit pas oui tout de suite. Elle fait un usage de la liberté, mais la liberté qu'elle utilise à ce moment-là, qui est une liberté dans laquelle elle discute, eh bien, n'est pas la liberté d'origine. C'est une liberté, justement, la liberté déchue, qui dit « oui, mais qu'elle oppose des objections ». Alors, c'est une forme de liberté. Mais il y a une discussion, voilà quelqu'un qui vient de la part de Dieu, et elle discute, c'est quand même beau, voilà. C'est extraordinaire. Et donc, par contre, après, quand l'ange lui dit, c'est extraordinaire, il dit « l'Esprit Saint descendra sur toi, et te couvrira », etc. Alors à ce moment-là, elle dit un oui absolu, et qui est la liberté d'origine. Donc vous voyez, dans cet exemple-là, on voit ce que la liberté, la nôtre, la liberté déchue, on dit oui, mais, nanana, on discute, on hésite, et puis la liberté absolue qui est « oui, que ta volonté soit faite », qui est la liberté du Christ en croix, par exemple, quand le Christ dit... il ne discute pas, hein, il dit bon, si ce couple peut s'éloigner de moi, c'est bien, mais que ta volonté soit faite. Hein, c'est tout à fait la liberté absolue. Ça.
Je pense à quelqu'un comme ça, comme Maximilien Kolbe, il y en a d'autres comme ça, qui ont donné leur vie comme ça immédiatement, par amour pour le Christ, je pense, et pour son prochain, qui immédiatement n'ont pas hésité à en donner leur vie pour sauver celle de leur frère.
Oui.
C'est une liberté.
Ah oui, ça ressemble à la liberté d'origine.
C'est bon,
mais on voit justement, c'est très intéressant de lire les vies, je crois, au 20e siècle, il y a eu beaucoup de martyrs dans les camps, les prisons, je pense,
c'est là, pour ça.
Et on voit très bien qu'il y a des hésitations, et puis il y a cette espèce de feu du martyr qui est un oui absolu à ce moment-là. Quand on lit les vies, enfin, je lisais la vie de Saint Polycarpe, par exemple, on a une très belle vie de Saint Polycarpe de Smyrne, et on voit très bien que pendant tout un temps, il s'était vieil évêque. Il était caché chez une fille, bon, chez des amis, mais avec, en toute humilité, il n'était pas prêt. Et puis, il y a un jour où il s'est senti différent, enfin bon, la police romaine est venue chez lui, et il s'est déclaré, et à ce moment-là, il n'y a plus aucune hésitation, aucun retour en arrière. Donc, dans le cas, effectivement, tu viens de citer ces exemples-là, parce que dans le cas des Saint-Martyrs, on voit bien que... qui sont capables d'hésitation dans un premier temps, c'est-à-dire cette liberté déchue, mais qui est une liberté. Si vous voulez, c'est quand même une liberté, mais c'est une liberté inférieure. Et après ça, l'Esprit Saint leur donne, leur fait ce don de la liberté absolue.
Cet homme-là, je ne sais pas, tu connais un peu son... On l'a laissé mourir de faim et de soif,
ouais.
Et il paraît que ses gardiens ne supportaient pas, parce qu'en fait, il a passé tous les jours de la vie qui lui restait à vie à chanter des louanges de Dieu.
Ah oui, c'est vraiment
alors qu'il était ni boire ni manger, bon, c'est vraiment une mort très très dure.
Mais ça, c'est...
Et on a fini par l'achever à la seringue parce que c'était insupportable de l'entendre chanter louanges de Dieu comme ça.
Et là, c'est tout à fait le...
C'est impressionnant.
Le charisme de tout temps, disons, des martyrs véritables. Et ça, c'est l'être humain à ce moment-là est totalement libre. C'est une liberté absolue. Oui. Alors oui, donc pour résumer, c'est un peu compliqué, donc ne disons pas que nous ne sommes pas libres, ce ne serait pas juste, mais disons que nous ne sommes pas totalement libres et que Dieu agit en pédagogue, même à travers les épreuves par exemple, les vies que nous avons, c'est toujours pour ça, pour découvrir la liberté, pour être plus libre, plus... et une personnalité justement se développe dans la liberté progressive. C'est vrai que tel que nous découvrons aujourd'hui, nous avons plutôt l'impression d'être captifs, d'être enchaînés par des passions. Quand on lit le Triole ou le Pentecoster, non pas le Pentecoster, les églises patristiques tous les matins, tous les jours, pratiquement nous disons à Dieu ça, nous disons regarde, délivre mon âme enchaînée par les passions, c'est des choses que nous confessons constamment devant Dieu ça. Mais cet enchaînement, il n'est pas du tout définitif, parce que le Christ a déjà brisé ces chaînes-là, c'est à nous, si vous voulez, à entrer, c'est difficile, mais je crois que c'est quand même vrai, c'est à nous à entrer en possession de la liberté dont le Christ nous a fait don. Et je crois qu'en fait, que notre vie quotidienne consiste à nous approcher toujours plus du Christ. Il faut quand même, si vous voulez, un combat de notre part pour être toujours plus proche du Christ, par la prière, par l'application de ses commandements, en essayant vraiment, jour après jour, d'être plus proche du Christ. Et plus nous sommes proches de lui, plus nous jouissons de ce don de la liberté dont il est rempli et qu'il nous donne, en fait. Il s'agit, au fond, la vie en Christ, c'est s'approcher d'un banquet pour y goûter, pour y manger, y boire. Et donc, vous connaissez le supplice de Tantale, c'est très intéressant, les mythes anciens, le supplice de Tantale, c'est une histoire affreuse, et de ce monsieur qui était attaché partout, et il y avait des tables comme ça, mieux que ça, avec des monceaux de choses à manger et à boire, et il ne peut pas, attaché par le cou à un mur, il ne peut pas aller vers ça. Donc ça, c'est la condition, en fait, vraiment déchue, l'être humain qui est attaché, lié, et qui ne peut pas goûter de ce que Dieu, du banquet que Dieu lui a préparé. C'est toujours effrayant, et c'est un supplice. Pourquoi est-ce que tellement d'êtres sont en souffrance de l'âme? Pourquoi est-ce que l'hôpital psychiatrique rempli de